Oui, ça a été aussi.
Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors vous êtes peut-être en pleine réflexion, en pleine remise en question sur votre vie. Vous hésitez peut-être à quitter votre partenaire, à vous reconvertir professionnellement ou même à tout plaquer. Les grandes décisions sont toujours difficiles à prendre par peur de faire une erreur et de le regretter évidemment par la suite. Eh bien dans C'est votre avenir, on peut vous dire quelles seront les conséquences de vos prises de décision et comment elles évolueront à l'avenir grâce à notre coach intuitif et médium Alexandre Delavanne qui va répondre à toutes vos questions. Bonjour Alexandre.
Bonjour Trina, bonjour à tous.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Je vais bien, merci.
Je crois qu'il vous est arrivé quelque chose avec une chauve-souris hier soir.
Oui, effectivement, oui. J'ai eu la présence chez moi d'une chauve-souris, mais pourquoi vous me parlez de ça ?
Ça vous a beaucoup travaillé, donc vous avez choisi ce sujet-là pour votre superstition du jour.
Oui, comme chaque jour, on choisit une superstition et ça sera aujourd'hui la chauve-souris.
Ça sera d'ici une petite demi-heure. Oui. Pour nous rejoindre et poser vos questions, Alexandre, c'est simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Et puis vous faites peut-être partie des 82% de femmes ou des 71% d'hommes qui ont déjà été victimes de ghosting. Cette tendance à ne plus donner de nouvelles du jour au lendemain sans explication. On en parlera tout à l'heure et je vous invite bien sûr à nous appeler si c'est votre cas pour nous raconter votre expérience. Allez, on démarre avec Delphine. Bonjour Delphine.
Trina, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bienvenue Delphine, vous nous appelez d'où ?
De Bayonne.
D'accord. Alors, pour vous aussi, c'était la rentrée aujourd'hui puisque vous êtes enseignante.
Oui, mais je suis à temps partiel, donc je n'ai pas fait la rentrée. Aujourd'hui, je la ferai demain, moi.
D'accord, mais vous avez fait une pré-rentrée hier, donc.
Oui, voilà.
Oh, comment
oui,
ça alors. S'est passé ?
Eh bien, très bien, malgré tout, même si, voilà, je suis en plein de réflexions. Mm-hmm. Parce que, au mois d'août, là, je ne savais pas vraiment ce qui allait advenir de moi à la rentrée. Pédagogiquement, on avait des idées avec l'équipe pour que je prenne ma classe à trois quarts temps. Mmh. Et puis l'administration a décidé autrement. Vu que j'étais à trois quarts temps, ils m'ont découpée.
C'est-à-dire
voilà, sur des écoles différentes.
Ah, donc vous allez devoir faire des remplacements, c'est ça ?
Voilà. Je vais devoir compléter des enseignants, alors que au niveau pédagogique et même l'inspectrice était. Était partante pour que je garde la même classe comme je fais depuis 4 ans.
Oui.
Et puis là, au milieu du mois d'août déjà, l'administration trouvait que c'était plus facile pour eux de faire 50 plus 25 plutôt qu'un 75%. Donc voilà, donc en fait, c'est incroyable. Heureusement, il faut obéir entre guillemets, on n'a pas trop le choix, même si hier la pré-rentrée s'est bien passée, je suis allée travailler avec mes différentes collègues, ça s'est bien passé, mais ça me pose question parce que ça m'arrive cette année et justement je suis en plein questionnement sur j'ai bientôt 50 ans donc sur mon avenir professionnel parce que le métier avec les enfants me plaît énormément, avec les équipes aussi, mais la lourdeur de l'éducation nationale, je suis très en colère quoi.
Alors, vous êtes en colère contre quoi exactement ? Le manque de moyens, de professeurs ?
Alors, le manque de moyens, puisque là, on travaille, ils ont l'air de dire que tout va bien. Nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est beaucoup de contractuels qui ne sont pas formés, qui vont démissionner dans 2-3 semaines, qui arrivent non formés. Donc, c'est à nous, enseignants, de les former. Alors que, on n'a pas le salaire pour. Il y a 10 ans, 20 ans, il y avait des gens qui étaient payés pour former ces jeunes qui arrivaient, quoi.
Bien sûr.
Des jeunes étudiants, là, c'est des contractuels qui n'ont pas forcément choisi ce métier. Et en plus, il n'y a plus personne pour les former. Donc, en fait, soit on les laisse tomber, mais quand on a un cœur, on ne peut pas les laisser tomber. Donc, on les aide, on prend sur notre temps personnel. Et puis, il y a un manque de reconnaissance parce que, tout le monde peut être un stit aujourd'hui. Donc, voilà.
D'accord, c'est-à-dire
donc
que les recrutements sont différents et les critères sont peut-être moins élevés, c'est ça ?
Complètement, ouais. Oui. C'est des gens de bonne volonté, mais très difficile pour eux, quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc, est-ce que vous envisagez de changer totalement de secteur d'activité ? Non, quand même pas.
Non, parce que j'aime ce que je fais. Mmh.
Vous êtes passionnée.
Oui. C'est des métiers de cœur, donc je voudrais faire une formation le week-end sur ce que propose Frédéric Lenoir là sur la philosophie pour les enfants.
Oui.
C'est sur 4 week-ends, pour aider, faire en sorte que les enfants, les petits, apprennent à réfléchir par eux-mêmes.
D'accord.
Parce que ça me tient à cœur. Et puis, mais en fait, non, j'attends. Depuis quelques années, j'attends des signes. Mais je trouve que ce remue-ménage là cette année me dit que c'est peut-être le moment pour moi
de passer à autre chose. Alors, je crois que ça a aussi un impact sur votre couple, hein, c'est ça ?
Oui, parce que ça me demande beaucoup en énergie, en temps. Moi, je suis à 3/4 temps justement pour bien faire mon métier et prendre soin de moi, et de mon couple et de mes enfants. Mm-hmm. Et donc, ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que, j'arrive pas à mener tout de front.
D'accord.
Et donc, mon couple empathie, on est devenus des bons copains, des bons parents, je pense, j'espère. Mais on se perd en tant que couple.
D'accord.
En tant qu'amoureux. Voilà, donc je voudrais savoir si ça va être possible à l'avenir de renouer tout
le
ça.
Le lien. Voilà. Alexandre, on vous écoute.
Alors, effectivement, et je vais aborder dans votre sens, mais sans pour autant porter un jugement sur votre métier et sur ce qui se passe aujourd'hui en termes d'organisation et au niveau de l'éducation nationale. Mais pour moi, effectivement, vous êtes face à des changements qui vous sont peut-être difficiles et puis qui n'ont pas la philosophie et la valeur de ce que vous attendez ou de ce que vous pouvez projeter sur l'avenir, mais à la fois j'ai l'impression que la période dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh bien, c'est une période assez propice. Pourquoi ? Parce que c'est une période qui va vous amener à réfléchir sur vous, à prendre conscience de la situation, non pas pour changer de métier, mais peut-être pour évoluer sur autre chose. Et vous parliez de formation. Alors, effectivement, cette formation-là peut être enrichissante, mais ce n'est pas une formation au sein de l'éducation nationale. Hein. Ça peut être complémentaire, mais ça peut vous permettre aussi d'avoir une autre transmission, un autre apprentissage vers l'individu et notamment vers la jeunesse. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'au sein de la structure et de l'institution dans laquelle vous êtes, il y aura moyen, il y aura possibilité à vivre un changement positif pour vous qui semble s'annoncer sous une période à peu près de 2 ans grand maximum. Donc pour moi, j'ai l'impression que au-delà de la fatigue psychologique, de la pression peut-être que vous subissez au sein de votre travail, il y a ce besoin chez vous aussi peut-être d'avoir plus de recul et d'essayer de donner un autre sens à votre vie et à votre existence pour justement arriver à aller vers des priorités. Et les priorités aujourd'hui, c'est celle de vous retrouver dans votre couple, de redonner du sens à tout ça, de redonner de l'essence à cet amour, et puis aussi à vos proches, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est pas que vous les avez délaissés, mais vous êtes concentré sur un noyau face à certaines personnes ou un noyau familial, et puis il y a d'autres personnes pour lesquelles vous avez peut-être été plus en recul, et on dirait qu'il y a ce besoin chez vous de retrouver ces liens-là et d'avoir de nouvelles activités personnelles aussi. Hein.
Ouais. C'est le cas, Delphine ?
Oui. Cette année, je me disais, je pense à moi, bon, je fais un peu de sport et tout, mais retrouver d'autres activités, oui, et s'enrichir, oui.
Exactement. Et puis, de par votre situation professionnelle, bon, vous n'allez pas changer pour l'instant le système. Comme vous disiez, vous avez ce sentiment de subir. Après, vous aimez votre métier. Donc, ce qui est important, et quand on a la passion de son métier, on peut accepter certaines choses. Il faut aussi peut-être prendre du recul sur les changements. Mais parfois, les changements nous amènent à quelque chose de positif. Ça nous amène aussi à réfléchir sur nous pour évoluer vers autre chose. Et c'est pour ça que j'ai ce discours-là avec vous, parce que ce que je ressens, c'est que dans une période de 2 ans, vous aurez cette opportunité d'évolution, de formation. Oui, vous serez dans un carrefour avec une autre possibilité d'orientation, peut-être de changement de lieu aussi, qui vous sera complètement bénéfique.
Donc, professionnel ?
Oui, de lieu professionnel. Ouais, donc, ne restez pas sur une note de fatalité ou de désespoir, mais surtout, laissez ce qui vous, aujourd'hui, ce qui vous oppresse, ce qui vous ennuie de côté, et concentrez-vous sur ce qui vous apportera du bien, celui du plaisir, de l'activité et de l'amour de vos proches.
C'est beau. Merci Delphine d'avoir été avec nous.
Et pour l'avenir du couple ?
Oui, vous êtes confiant, Alexandre.
Oui, totalement. Oui. Ça fait partie justement de ses priorités.
Oui, c'est ça.
Pour moi, je ne sens pas qu'aujourd'hui, on remettra en question le couple à tel point qu'il se coupe ou il s'arrête. Non, au contraire, il y a des efforts qui seront donnés, mais il y a des prises de conscience autant de votre côté que de son côté à lui. Donc, il y a de l'espoir et je crois vraiment en votre capacité. Alors, surtout, faites-vous confiance.
Très bien, merci beaucoup.
Merci Delphine, à bientôt.
Au revoir.
Succès.
Au revoir.
Allez, on va s'intéresser dans un instant au ghosting et c'est Fabrice qui nous rejoindra. Il nous avait appelé en février dernier parce que sa compagne avait porté plainte contre lui et avait obtenu la garde de leur fils. Malgré ça, Alexandre lui avait prédit qu'il y aurait un changement sur le plan judiciaire qui pourrait faire basculer les choses. Et effectivement, un nouvel élément a été apporté au dossier. On en parle dans 3 minutes, le temps pour vous de nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 tout de suite.
Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Et Trina, aujourd'hui, vous allez nous parler du ghosting, sujet intéressant, non ?
Oui, alors on va d'abord donner la définition. Le ghosting, c'est le fait d'interrompre une relation du jour au lendemain sans explication. Et il faut le savoir, c'est un terme classé dans la catégorie des violences psychologiques.
Moi, je pensais que c'était une relation fantôme.
Oui, mais ça doit venir de là.
Ah, mais ben, sûrement, et oui.
Ça vous est déjà arrivé de ghoster ou d'être ghosté, vous ?
Peut-être inconsciemment, peut-être. Moi, je veux peut-être pas raconter tout en détail, mais oui, inconsciemment, peut-être. Oui.
Je le disais en début d'émission, d'après les statistiques, 82% des femmes et 71% des hommes ont déjà été ghostés. Les ghosteurs sont plus souvent des hommes. D'ailleurs, un homme sur deux avoue avoir ghosté après une première rencontre et 47% des hommes ont même déjà ghosté une personne après une relation sexuelle. Franchement, ça, c'est pas bien.
Oui, mais je pense que ça nous est arrivé à tous. Un petit peu. Non, ça vous est jamais arrivé ?
Non. Mon Dieu, non. Pourtant, ça n'est pas systématiquement spécifique à un genre, mais plutôt lié à la maturité du ghoster et à ses compétences en communication. Lui justifie ça comme un moyen de cesser de fréquenter une personne sans la blesser, mais en réalité, en agissant comme ça, il ne pense qu'à lui-même. Alexandre, est-ce que vous saviez qu'il existe 2 formes de ghosting ?
Non.
Alors, c'est comme au foot, il y a l'offensif et le défensif. Le ghosting offensif peut refléter 2 choses. Une frustration, vous estimez que l'autre n'en fait pas assez pour vous, qu'il vous néglige, donc en le ghostant, vous le faites payer pour qu'il réagisse. Ou de la manipulation perverse. Là, le but est de détruire l'autre parce qu'il y a une véritable volonté de passer à quelqu'un d'autre après avoir eu ce qu'on voulait.
C'est pas un peu la même chose quand même ? Non.
Il y a de la manipulation dans les deux. Oui, voilà, ça c'est sûr. Alors que le ghosting défensif, c'est quand une personne est tellement obsédée par l'autre qu'elle doit couper le lien de dépendance pour se protéger elle-même. Dans tous les cas de figure, le ghosting, ça fait mal. Quand on ghoste une personne, on n'imagine pas l'impact que ça peut avoir. Le silence devient insupportable. Donc la personne ghostée va essayer de le combler en cherchant des explications. Et quand on n'obtient pas d'explications, eh bien on souffre. Donc ça ralentit le processus de deuil de la relation. Sauf que donner des explications sur un tel comportement n'est pas du tout la priorité du ghosteur, puisque c'est justement ça qu'il essaye de fuir en vous ghostant. En fait, on peut dire qu'il y a un vrai rapport de force entre le ghosteur et le ghosté. Le ghosteur choisit l'absence, le ghosté la subit. C'est une violence psychologique qui peut d'ailleurs réveiller des peurs profondes. Une revue scientifique américaine a même découvert, écoutez bien, que le ghosting déclenche dans le cerveau les mêmes zones que celles qui se mettent en route face à la douleur physique. Vous imaginez ?
Ah oui.
C'est quand même fort. Hein.
Oui, mais comment réagir quand on se fait ghoster, justement ?
Alors, d'abord, éviter les pensées obsessionnelles du genre « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi moi ?» Ce sont des questions légitimes, mais ça peut créer une pensée obsédante qui deviendra très vite douloureuse. Tout passe en fait par l'acceptation. Il faut accepter que vous n'aurez jamais de réponse et vous focaliser sur ce que vous pouvez tirer de cette douleur et comment elle peut vous faire grandir. À moins d'avoir été irrespectueux envers votre ghosteur, dites-vous que ce n'est pas de votre faute et tournez-vous vers ceux qui vous aiment réellement, votre famille, vos amis. Fixez-vous aussi des petits objectifs dans votre vie quotidienne. Ça alimentera votre sentiment d'auto-efficacité et de respect envers vous-même, parce que là, le respect, il en prend un coup, évidemment.
Bien sûr.
Et essayez de pardonner, parce que le pardon est un acte qui sert avant tout à ceux qui le mettent en pratique. N'importe comment, si vous êtes victime de ghosting, gardez bien cette phrase en tête chez vous et n'hésitez pas à vous la répéter. Je ne dois pas subir une situation qu'on m'impose.
Oui, et puis il vaut mieux peut-être éviter de rencontrer ce genre de personnes.
Ouais, mais des fois, on ne choisit pas, malheureusement.
On choisit pas, ouais.
Fabrice nous a rejoint. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Bienvenue Fabrice, vous nous appelez d'où ?
Bah là, je suis sur la route, donc entre Bordeaux et Angoulême, quoi.
Vous êtes garé, hein ?
Ah oui, je me suis arrêté exprès pour vous, en fait. J'ai calculé par rapport à l'heure d'appel, quoi.
Ah d'accord, très bien.
Pour avoir un bon son.
Vous nous aviez appelé en février dernier ?
Ouais, c'était pas tout à fait ça, en fait. C'est qu'il y avait pas mal de plaintes de la part de mon ex-conjointe sur moi. Et en fait, du coup, Alexandre m'avait prédit en fait un changement de situation avec une nouveauté, un nouveau tribunal. En gros, pour schématiser la chose. Mm-hmm. Et du coup, j'ai reçu un courrier donc le week-end dernier en rentrant chez moi, en fait, parce que j'étais absent de la semaine. Et du coup, il y a eu une saisie du juge des enfants. Donc en fait, on passe à la taille au-dessus par rapport au JAF. Mm-hmm. Et donc du coup, je sais pas ce que c'est qui a déclenché ça, si c'est mes dernières plaintes suite à ces menaces au couteau quand j'ai ramené mon fils. Le fait d'avoir déposé plainte, où la machine s'est enclenchée, et puis du coup, en fait, on commence à croire un peu mes dires par rapport à toutes les violences qu'il y a eu, qu'elle a fait sur mon fils, et par rapport à ce qu'elle me fait subir aussi. Et du coup, la situation, le truc qui m'inquiète, c'est de savoir un petit peu la suite. Alors, vu que Alexandre m'avait prédit plus ou moins qu'il y aurait un changement de situation par rapport à ça, et que ce serait, je serais écouté, du coup, je me suis dit, tiens, tu vas rappeler pour savoir un petit peu la suite. Pour voir si ça peut un peu éclairer un peu mes lanternes, comme on dit.
Alors, vous nous dites qu'elle vous a menacé avec un couteau?
Ouais, dernièrement, moi, tu vois, en fait, j'ai ramené mon fils et ça allait pas assez vite, en fait, au niveau de la passation de l'enfant, parce qu'elle est toujours pressée, donc elle se régale à faire hurler et crier mon fils. Et moi, j'essaie de mon côté de le rassurer pour qu'il parte avec le sourire et parce qu'il a passé un bon week-end. Et ce jour-là, ça allait pas assez vite, en fait, donc elle a commencé à me fermer la porte sur les jambes. Et puis, vu que ça allait pas assez vite, elle s'est mise devant côté passager, elle m'a sorti un couteau qu'elle m'a fait rouler entre ses mains, en fait, en me disant, vas-y, en gros, je vais parler vulgairement, mais en gros, dégage, va plus vite, quoi. Donc du coup j'ai déposé plainte immédiatement en fait parce que c'était devant la gendarmerie donc comme fait exprès. Le problème c'est que la gendarmerie au lieu de l'interpeller de suite pour essayer de retrouver le couteau, il le laissait partir en fait et ils ont pris ma plainte à la place. Et donc du coup cette plainte est partie avec une autre gendarmerie et une autre enquêtrice dessus qui m'a dit qu'en fait elle allait faire ressortir tout son passé. Et en fait entre temps j'ai appris que la mère de mon fils avait déjà été condamnée donc pour des problèmes d'alcoolémie, de retrait de permis, de conduite sans permis ainsi que pour des violences sur son ex-conjoint en 2013 et avec par la même occasion en fait des violences volontaires et dégradations quoi.
Et ça vous l'ignoriez pendant que vous étiez avec elle ?
Ouais, tout à fait, ouais.
D'accord.
J'ai appris ça plus ou moins vaguement avec une ancienne amie à elle et puis du coup là j'ai eu confirmation en fait à force j'ai pu savoir quoi.
D'accord.
Et j'ai appris ça il y a 4-5 mois.
Alors, Alexandre, est-ce que ça peut être cette nouvelle plainte qui a fait basculer les choses ? En tout cas, est-ce que maintenant, vous continuez dans votre prédiction et vous ressentez que ça va peut-être s'arranger pour la garde de l'enfant ?
Alors, je ne sais pas si ça va s'arranger, mais tout au moins, ça va s'éclaircir. C'est ce que je ressens, effectivement. Et peut-être que, justement, lié à cette plainte, eh bien, il se rajoute un élément supplémentaire au dossier. Alors, vous allez penser à cette convocation. Et votre convocation est pour bientôt, c'est ça, hein ?
Bah pour l'instant, j'ai pas reçu de une espèce de mise en demeure en fait, comme quoi il y avait une enquête qui était ouverte pour ils appellent ça pour une mesure éducative.
D'accord. Mais moi j'ai l'impression que ça va s'accélérer. J'ai le sentiment qu'il y a une femme dans ce dossier c'est une femme de la justice qui va pouvoir peut-être accélérer le dossier de manière à faire en sorte d'éclaircir et puis surtout aussi de protéger l'enfant parce que c'est l'enfant aussi qui vit toutes ces turbulences et toutes ces fragilités et ces menaces-là. Donc, pour la sécurité et surtout l'état psychologique de l'enfant, eh bien, j'ai le sentiment que la justice va réagir assez rapidement et d'ici la fin de l'année. Alors, vous allez penser à la continuité de cette difficulté-là et de ce problème-là et vous allez me donner un nombre entre 100 et 1000, s'il vous plaît.
Le premier qui vous vient.
999.
D'accord. Alors, effectivement, il y a de la lenteur. Effectivement, ça, il y a quelque chose qui se fait en trois étapes. Donc, peut-être qu'on est sur la troisième partie ou sur la troisième étape. Mais on dirait que l'histoire est en train, ou en tous les cas, l'évolution est en train de se faire, est en train de se mettre en place. Et il y a eu un changement de lieu. Donc, ça, c'est bien annoncé. Et pour moi, vous verrez que votre plainte qui a été déposée va être prise en compte et ça va permettre effectivement d'avoir, on va dire, une majorité de réponses ou en tous les cas de capacité à pouvoir vous réagir et à vous à permettre aussi à ce que les choses soient positives de votre côté. Donc pour moi, restez confiant, même si aujourd'hui vous êtes un papa qui se défend et qui essaye de protéger son enfant, et puis peut-être que aussi sa mère le fait autrement et différemment, je ne suis pas là pour juger, mais en tous les cas, pour moi, vous êtes amené à avoir une protection sur vous de la justice et qui va permettre de vous faire entendre et d'aller vers quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là.
Et on vous le souhaite, Fabrice. Tenez-nous au courant.
Ouais, par contre, dernièrement, en fait, aussi pareil, après donc les fameuses menaces au couteau, la fois d'après, donc les 15 jours après, j'ai ramené mon fils, elle m'a aussi roulé sur le pied, puis a maintenu sa voiture sur mon pied, donc c'est encore un fait grave. Mon fils a vu la scène, et donc quand je l'ai ramené, donc le lundi 15 août là, de cette année, donc après les vacances, le premier truc qu'il m'a dit quand il est monté dans la voiture, c'est « t'es pas dessous ». En gros, en parlant de mon pied, en fait, il m'a demandé s'il n'avait pas le pied sous la roue, donc en fait, il vit des traumatismes, en fait.
Bien sûr. Il est suivi par un thérapeute, lui ?
Bah non, parce qu'en fait le problème c'est que c'est très compliqué en fait avec sa mère pour au niveau des soins. Moi comme je viens avec moi, j'essaie de l'amener chez le docteur au maximum du temps parce qu'il y a toujours des bricoles en fait à voir. Et donc au mois d'août, j'ai réussi à l'amener chez un cardiologue parce qu'il avait un souffle au cœur. Donc on a découvert ça sur une visite classique comme ça anodine. Et donc du coup j'ai pu l'amener chez un cardiologue, mais il y a plein de trucs, c'est plein de petits détails comme ça qui font que en fait mon fils est traumatisé à chaque fois.
Et il
c'est
a pour quel âge en fait,
il a 3 ans et demi.
3 ans et demi, oui. Mmh. Alors effectivement, donc, vous devriez quand même le faire suivre ou l'aider, même si vous
si
l'avez
pas... c'est positif, en tout cas, comme vous le ressentez, Alexandre, l'issue pour Fabrice, qu'il aura plus avec lui, il va pouvoir s'en occuper. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. Et bon courage à vous, Fabrice.
Quitte à changer de métier pour lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment, mon fils, c'est la lumière de ma vie et je me bats, je me lève tous les jours pour lui, comme je me bats pour lui, en fait, pour éviter que, justement, il vive des traumatismes qui ressortent, en fait, plus tard dans sa croissance, en fait, dans son inconscient, quoi.
Et c'est tout à
votre
honneur.
Parce qu'on sait très bien que, voilà, ça marque, en fait, à une certaine étape, ça s'efface et puis après, un jour ou l'autre, ça ressort, en fait, et on fait des enfants, en fait, qui sont complètement perturbés, quoi.
Bien sûr. Merci courage. Beaucoup et courage à vous, Fabrice. Merci. Allez, on vous attend, vous aussi, sur Sud Radio. 0826-300-300. C'est Eric qui va nous rejoindre. Écoutez bien. Sa compagne a prétexté qu'elle se rendait chez sa meilleure amie, alors qu'en réalité, elle était avec un autre homme. Eric l'a découvert, il était prêt à pardonner. Mais sa compagne l'a quitté. Et aujourd'hui, Eric s'est rapproché de la meilleure amie de son ex, qui n'est d'ailleurs plus sa meilleure amie, puisqu'elle s'est fâchée avec elle quand elle a appris qu'elle lui avait servi d'alibi lors de l'infidélité. Vous me suivez, Alexandre ?
Oui. Tout est une question d'amis. Hein.
Voilà, rassurez-vous, on va éclaircir tout ça dans un très court instant. À tout de suite.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdin, Alexandre Delaval.
De retour dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio au 0826-300-300 si vous voulez poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif. Dans un instant, on recevra Eric. Mais d'abord, c'est la superstition du jour. On le disait en début d'émission, il vous est arrivé une mésaventure avec une chauve-souris hier soir. Donc,
oui, effectivement, j'ai eu une chauve-souris qui s'est infiltrée chez moi.
Spécifique.
Et en un endroit spécifique, c'était assez étonnant, dans un vase. Elle s'est installée dans un vase. Et donc, ça m'a donné l'inspiration d'en faire le sujet du jour, enfin, ou en tous les cas, la chronique sur la superstition. Oui. Alors, vous savez qu'en Chine, la chauve-souris, et cette superstition-là est de bon augure. Quand on parle de chauve-souris, elle symbolise la richesse et les Chinois considèrent les chauves-souris comme un présage d'abondance. Alors, si vous apercevez 5 chauves-souris la tête en bas, eh bien, ça annoncera l'abondance, la longue vie, la sérénité, la bonne santé et la mort sans souffrance pour ceux qui...
5 chauves-souris.
S'il y en a 5, ouais, voilà, apparemment, c'est, voilà, exactement. vous savez, elles aiment bien s'installer normalement dans des chais, dans des garages, enfin, dans des endroits bien cachés de la lumière. Et donc, si jamais vous avez ça, ben, vous allez peut-être gagner aussi le jackpot. Hein, si vous avez ces 5 chauves-souris. Mais apparemment, pour qu'elle vous porte chance, la la chauve-souris doit être suspendue tête en bas et non pas, par exemple, allongée dans votre lit tranquille en train de regarder la télé.
Ou dans
un vase, voilà. Alors, si vous découvrez une chauve-souris morte dans votre habitation, alors là, on pourrait prétendre qu'on vous a jeté un mauvais sort. Alors, on reste tout de même quand même à vérifier. Hein. En cartomancie, vous savez que, et dans les textes sacrés, la chauve-souris représente la trahison. Depuis le Moyen-Âge, l'histoire de la superstition de la chauve-souris n'est pas forcément de bon augure parce qu'on l'utilisait pour des sorcelleries, pour des rituels. Mais d'ailleurs, certains l'associent aux démons et aux buveurs de sang. Alors tout ça, c'est un peu une légende. Et rares sont les races qui font ce genre d'actes. Les espèces, en tous les cas en France, sont que des chauves-souris herbivores, donc sans danger.
Oui,
et elles aiment bien se mettre dans des endroits qui sont assez sains. Donc la présence d'une chauve-souris n'est pas forcément négative en soi.
D'accord, donc ça veut dire qu'en ce qui vous concerne, votre maison est saine.
La maison est saine, et puis bon, il n'y en avait pas cinq, il n'y en avait qu'une, mais l'abondance sera un petit peu minimisée.
Oui, voilà.
Mais bon, un petit
deux
peu d'abondance.
Centimes, peut-être.
Voilà, oui, j'aurais 2 centimes, merci.
On retrouve Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bienvenue Eric, vous nous appelez d'où ?
Du sud-ouest, d'Aquitaine.
D'accord, alors votre ex a été infidèle ?
Oui, bon, ça remonte déjà à quelques années maintenant, ça fait plus de 2 ans, on va dire. Mm-hmm.
Racontez-nous.
J'ai découvert ça comme ça, du jour au lendemain. Hein. Oui, ça m'est tombé sur le coin du visage, je ne m'attendais pas à ça. Donc on en a discuté, ça a été rapide après derrière, ça on en a discuté, mais elle a préféré tout arrêter, on va dire. Voilà.
D'accord. Et donc ensuite ?
Et bien ensuite, elle est partie, un an plus tard elle est partie, on va dire. Mais voilà, moi j'ai gardé la garde des enfants.
D'accord. Elle vous avait fait croire qu'elle était avec sa meilleure amie.
Ah oui, bon, ça c'était pendant. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Oui. Pour cacher son infidélité, elle me racontait donc qu'elle était avec sa meilleure amie, qu'elle passait la soirée avec, entre autres, quoi.
Mm-hmm.
Sauf que c'était pas vrai, bien sûr.
Donc,
j'ai découvert plus tard. Voilà.
Et aujourd'hui, vous vous êtes rapproché de cette meilleure amie.
Rapproché, on va dire qu'elle a, continué à, on va dire, à prendre de mes nouvelles régulièrement, on va dire, voilà.
Mm-hmm.
Et là, depuis peu, elle m'a appris qu'elle s'était séparée. Et donc, du coup, chemin faisant, c'est moi qui me suis mis ça en tête. On va dire que les choses pourraient être possibles, voilà, tout simplement.
D'accord. Et elle n'est plus en contact avec votre ex, elle, hein ?
Non, du tout, non, du tout.
Elles sont fâchées ?
Oui, plutôt elle, on va dire, voilà, oui.
Mm-hmm. À cause de quoi ?
Oh, tout simplement... parce que les choses n'ont pas été dites, hein. Elle se racontait tout avant, et puis surtout le fait de prétexter, de se servir d'elle comme alibi sans en avoir parlé, ça fait pas vraiment plaisir, on va dire.
Ah oui, quand elle disait qu'elle était chez sa meilleure amie, elle ne la mettait pas dans la confidence.
Ah non, du
D'accord.
tout, elle était absolument pas au courant de tout ce qui se passait, non du tout.
D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il est possible qu'une relation se fasse mm-hmm. entre Eric et cette femme ?
Eh bien, c'est possible.
Bon.
Alors, par contre, on dirait que ça va demander du temps, ça va demander aussi de la confiance, hein, de reprendre un climat de confiance ensemble. Et puis aussi, peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des événements qui pourront se faire ensemble, mais de manière détachée ou en extérieur, c'est-à-dire sortie du contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui ou dans les habitudes dans lesquelles vous pouvez être aujourd'hui ensemble. C'est-à-dire que pour moi, cette histoire pourra peut-être plus se favoriser si vous êtes amenés ensemble à bouger, à voyager ou à peut-être aussi aller vers des lieux insolites ou des choses qui soient décidées comme ça de manière sous un coup de pouce ou autre chose qui vous permettra de vivre des moments présents et des moments forts et c'est ce qui vous rapprochera de l'un et de l'autre. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental avec cette personne et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît.
vers foncé, vers jungle.
D'accord. Alors effectivement, il y a encore besoin, si vous voulez, je dirais, de mettre un peu de la lumière sur ce qu'il y a autour pour éviter de vous faire parasiter, autant pour vous que pour elle. Et puis surtout, il y a quand même toujours cette peur de trahison qui semble ressortir. Donc il y a toujours, voilà, il y a toujours cette crainte qui est là. Et même si vous avancez avec plus de confiance et on va dire de notion de sécurité ou en tous les cas de volonté d'avancer ensemble, mais malgré tout, il y a quand même un regard vigilant qui se pose dessus et qui vous permettra par la suite de pouvoir l'éliminer ou l'effacer progressivement, mais ça va demander du temps. Donc la réalisation de cette histoire, pour moi, semble être assez positive, mais vraiment pas tout de suite. Il faut attendre à peu près une période de 6 mois avant d'avoir un véritable résultat ou en tous les cas un changement.
Merci Eric d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 1er septembre, ça y est.
Eh oui, ça y est.
Déjà.
Eh oui, le mois de l'automne, hein, de cette saison nous arrive. Alors ce jeudi 1er septembre, et pour la Saint-Gilles, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Ariel. On invoque cet ange aujourd'hui pour vous permettre de développer l'entente familiale, aussi de développer mieux vos capacités d'apprentissage aux langues linguistiques, et aussi à la connaissance juridique. Il est favorable pour tout ce qui est en rapport à la médiation et en fait c'est un ange qui nous permet de développer plus facilement la communication. Alors pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et rouge et sa pierre de chance, c'est l'améthyste.
Très bien, voilà. On accueille Christine. Bonjour Christine.
Bonjour, bonjour Trina, bonjour Alexandre.
Bienvenue Christine,
bonjour,
vous nous
Christine.
Appelez d'où?
Alors je vous appelle d'Occitanie.
D'accord, alors là c'est sérieux, votre nièce de 22 ans parle beaucoup de la mort?
Oui, je vous appelle parce que suite à une discussion que j'ai eue une dizaine de jours avec sa maman, nous étions toutes les trois, elle repartait de chez nous pour aller où elle habite sur Toulouse, hein. Et tout d'un coup, enfin, elle nous a parlé un petit peu. Moi, j'ai trouvé qu'elle parlait beaucoup de la mort, d'amis qui étaient partis, enfin, qu'elle savait qu'elle allait mourir, mais bon, enfin, on va tous mourir aussi. Mais j'ai trouvé qu'elle accentuait un petit peu ses propos là-dessus, ça m'a beaucoup inquiétée. Et en fait, je vous appelle pour ça aujourd'hui, pour connaître son avenir professionnel, parce qu'il se pose une question. Elle vient de quitter un travail parce qu'elle n'y était pas bien. Elle a bien fait de partir. Elle nous a bien expliqué ce qui s'était passé. Je pense qu'elle a bien fait. Et maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'elle reste sur Toulouse pour un meilleur avenir ou est-ce qu'il vaudrait mieux qu'elle revienne chez nous? Et en fait, ma grande question, c'est comment puis-je l'aider?
D'accord. Quelle activité elle exerçait?
Alors, elle travaillait dans une entreprise de logistique de vêtements.
D'accord, elle veut rester dans le même secteur?
Pas obligatoirement, elle n'a pas d'idée fixe sur son avenir non plus. Si vous voulez, moi je vous appelle aujourd'hui parce que je pense qu'elle est un petit peu perdue et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider.
D'accord.
Pour l'aider au mieux.
Alors évidemment, je pense que les pensées qu'elle a la perturbent certainement. Quand vous dites qu'elle parle de la mort, qu'est-ce qu'elle dit exactement?
Mais en fait, elle nous a expliqué voilà, que donc, sa maman a un problème cardiaque, que dans sa famille, il y a d'autres personnes qui sont diabétiques et qu'elle, elle est sûre que par rapport à son héritage, elle va mourir. Donc, mais elle a vraiment appuyé là-dessus. Et puis, quand il y a quelques années, elle a perdu son grand-père paternel. Mmh. Et à la suite de ça, elle avait eu... elle s'était fait accompagner sur ce moment-là.
Oui.
Ça lui avait fait beaucoup de bien, mais là, elle est revenue sur cette histoire en disant que de toute façon, elle savait qu'elle était dépressive, qu'elle avait des problèmes et que ça resterait comme ça toute sa vie. Donc, c'est une jeune fille de 22 ans et on dirait des fois qu'elle nous fait penser plus à une adolescente qu'à une jeune femme adulte de 22 ans qui sait où elle veut aller. Je comprends que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, des fois on peut être tous un petit peu confus, mais ça m'inquiète beaucoup et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider.
Alors, vous nous avez envoyé une photo d'elle qu'Alexandre a sous les yeux. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment on peut expliquer ça, Alexandre?
Alors, bon, il y a plusieurs
définitions.
Oui, 22 ans, c'est jeune et il y a plusieurs définitions. C'est vrai que le mot de la mort fait peur et à la fois ça, de la manière dont c'est exprimé, de la manière aussi où comment c'est employé ou le contexte dans lequel elle l'emploie peut faire peur. Mais moi, je ressens pas ça. C'est-à-dire que il y a une autre interprétation des choses et même si aujourd'hui elle utilise des éléments marquants ou des faits réels, dramatiques au travers de sa famille, pour moi elle est plus face à la peur du changement, parce que la mort peut être aussi un rapport à son propre changement, et aujourd'hui c'est votre nièce, hein, c'est ça?
Oui, c'est ma nièce.
Voilà, votre nièce aujourd'hui, de ce que j'entends et de ce que je ressens, et attention, je n'ai pas la vérité et la science infuse, mais de ce que j'entends et ce que je ressens, c'est qu'on ne parle pas de mort physique, mais on parle d'une mort vers un changement psychologique chez elle.
Et donc,
d'un état et la peur d'un changement. Donc, pour moi, la priorité est vraiment, bon, bien sûr, c'est de se faire accompagner. Ça, je vais pas, on va pas s'opposer à ça. Donc, il faut qu'elle se fasse réellement accompagner par un thérapeute professionnel ou un psychologue, ou même peut-être plus s'il y a besoin d'aller voir, de faire une psychanalyse auprès d'un psychiatre. Mais sa priorité, et quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, c'est justement de lui conseiller ça, mais aussi c'est elle de trouver un sens à la vie et notamment de se réaliser professionnellement. Parce que le problème, il est là. C'est-à-dire que de ce que je ressens chez elle, c'est qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se réaliser, à se valoriser, en tous les cas, à trouver sa place dans le domaine de la société professionnelle. Et donc, et aujourd'hui, elle a un sentiment d'inutilité, vous voyez. Et je sens que votre nièce a besoin justement de trouver ses compétences, ses valeurs, pour à un moment donné que ce mot qui est la mort s'échappe d'elle progressivement et qu'elle le formule autrement et différemment et qu'elle n'associe pas la mort à la maladie, mais tout simplement à son réel changement et à la peur du changement. Mmh. Et c'est vraiment ça que je ressens. En tous les cas, pour votre nièce, et n'ayez aucune inquiétude. Alors, c'est tout à votre honneur de vouloir l'aider. Il faut le faire, bien entendu. Je pense que aujourd'hui, elle peut venir se rapprocher de vous une certaine période, mais elle a besoin d'être autonome et indépendante. Et surtout, elle a besoin, elle, de se réaliser. Elle a besoin de...
Alors, professionnellement, justement.
Voilà. Et justement, elle a besoin de se réaliser et elle a besoin de trouver la voie dans laquelle elle doit acquérir, enfin, en tout cas, elle doit aller. Et ça, c'est une priorité. Et pour moi, vraiment, c'est cet accompagnement-là dans lequel elle doit aller pour pouvoir à un moment donné se réaliser. Et ça va arriver sous une période à peu près d'un an. Ça va demander encore un petit peu de temps avant qu'il y ait un déclic, avant qu'il y ait quelque chose qui l'amène à s'ouvrir à tout ça. Mais tout ce qui touche au domaine peut-être social ou de l'humain ou de la communication ou autre, ce sont des secteurs d'activité qui lui correspondent bien.
D'accord.
On espère que ça vous a rassuré, Christine.
Oui, ça m'a rassuré. Mais elle pensait peut-être rentrer chez nous sur notre département. Il vaut mieux qu'elle reste à Toulouse. Ou c'est ça que on a du mal aussi. Parce que j'ai l'impression qu'à Toulouse, elle cherche pas réellement. Elle attend.
Vous sentez un changement de lieu, Alexandre ?
C'est ce que je vous disais, Christine. C'est pendant une période, je pense que c'est peut-être bien effectivement de l'accueillir près de chez vous, de l'amener à cet accompagnement-là, autant psychologique et aussi d'une réorientation professionnelle, pour après qu'elle puisse être autonome et indépendante.
Oui. Merci beaucoup, Christine, d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes.
Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne.
De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore, bien sûr, nous rejoindre. Et oui, il vous reste 10 minutes avant les vraies voix. 0826 300 300. On retrouve Florence. Bonjour Florence.
Bonjour Trina, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bienvenue Florence. J'allais faire un mix entre bienvenue et bonjour. Bon, je l'avais encore pas fait. Vous nous appelez d'où?
Des Pyrénées-Atlantiques.
D'accord. Alors, ça se passe bien dans votre couple et vous voulez savoir si ça va durer, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés un mois après le décès de ma mère. Et il m'a bien fait remonter la pente. Et depuis, on est ensemble, famille recomposée. Il a un enfant, moi j'en ai deux. Les enfants s'entendent bien et nous, ça se passe très bien. Et donc, en fait, je voulais savoir si un jour on se mariera, qu'est-ce que deviendra notre couple dans quelques années, si on finit notre vie ensemble et si la famille va s'agrandir, sachant qu'on a un écart de 7 ans, tous les deux, je suis plus âgée que lui, donc voilà.
D'accord. Vous avez déjà parlé mariage ensemble ?
Pas vraiment. Il était marié avant.
Oui.
Moi pas, j'étais juste paxée et donc on n'a jamais parlé de mariage, non.
D'accord.
Mais c'est mon souhait en fait.
Oui, on le ressent bien.
Ouais.
Donc Alexandre, une preuve qu'on peut aussi nous appeler dans C'est votre avenir, si tout va bien.
Effectivement.
A priori, tout va bien. Est-ce qu'il y aura mariage ?
Eh bien, apparemment Florence, votre souhait c'est de ne pas vous marier tout de suite, c'est ça ?
Bon,
c'était de l'humour.
C'était de l'humour,
oui.
Je me suis fait avoir.
Faut quand même un temps de réflexion, non ?
Oui,
tout à fait.
Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir mariage ou en tous les cas, déjà, est-ce que la relation va pouvoir durer dans le temps ? Eh bien, je vais vous demander de réfléchir sur votre histoire, mais vraiment très vite, et de me donner un nombre entre 100 et 1000, s'il vous plaît.
88.
Pardon, 188.
Bon,
c'est pas grave. Effectivement, alors il y a parfois des évidences qui s'installent comme ça, et votre histoire était un petit peu liée à ce genre d'évidence-là. C'est-à-dire que pour moi, on dirait que vous avez tous les deux une vie auparavant, vous avez eu une vie très différente l'un de l'autre, mais il y a des éléments qui semblent se réunir ou en tous les cas qui s'ajoutent et qui vous permettent d'être très complémentaires et de vous sentir main dans la main pour pouvoir avancer sur le futur. C'est ce que vous ressentez aussi ?
Oui, c'est ça. On se complète bien et on communique beaucoup. Mmh. C'est ce qui fait que ça marche.
Oui. Alors, effectivement, et vous verrez que cette histoire va pouvoir s'installer dans le temps. Alors même, vous aurez un projet avant ce mariage-là. Vous aurez la possibilité d'avoir un projet d'habitation ou de lieu de vie différent dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais sur un lieu qui existe déjà. Donc, ça peut être soit sur un lieu d'une habitation familiale ou d'un autre lieu, mais vous verrez qu'il y a quelque chose de bon et de positif. Et puis, sous une période d'un an et demi, eh bien là on dirait que il y a d'autres prises de décision qui se mettent en place pour vous et vers plus d'engagement. Alors c'est peut-être cette histoire de mariage où on pourrait éventuellement officialiser cette union et là ça vous permettra d'aller plus loin et puis surtout de vivre un grand bonheur avec cette personne-là.
Et on compte sur le faire part. Merci Florence d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci Alexandre.
Merci à vous.
Vous revenez demain. Hein.
Oui.
On parlera de Nancy Meyer, qui est une médium détective. Vous allez voir, elle a résolu plein d'enquêtes avec la police américaine. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe.
Bonsoir, comment ça va ? Trina, bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Je ne dis pas bonsoir à Cécile, ça fait quelques moments, quelques heures qu'on est ensemble.
Oui, me supporte.
Non, réciproquement.
Vous avez un joli cœur, Cécile.
Oui, c'est pour vous.
Et Philippe est un joli cœur.
Voilà, c'est pour tous les gens que j'apprécie. Vous savez, comme je vous apprécie, je vous ai envoyé des cœurs, et vous aussi.
On vous envoie plein de cœurs, alors moi je vous le fais comme ça, parce que j'en ai pas sur ma chemise.
Ah là là, on est tellement fleur bleue avec Philippe.
Ça va être un menu des vrais voix romantiques. Aussi, ou...
C'est ça, exactement.
Pas franchement pour commencer,
ma
chère Cécile.
Je t'aime moi non plus, parce que voilà, je vous rassure qu'aujourd'hui, il y a Françoise Degois, entre autres, et Philippe Bilger, et on aura aussi
Anne Mansouret.
Okay. Et on va commencer aujourd'hui, on va parler de cette France hyper violente avec toutes ces vidéos sur Internet d'agression, que ce soit à Cannes ou à Toulouse. On va se demander si effectivement cette France est devenue hyper violente aujourd'hui.
Alors c'était la rentrée de Sud Radio lundi, mais c'est la rentrée des classes aujourd'hui. Vous avez vu malheureusement que dans les classements PISA et TIMSS, la France baisse année après année. Et on va se poser la question... Le niveau scolaire est-il mauvais ? Moi, je vous mets 20 sur 20 à tous, de toute façon, toutes et tous.
Mais vous aussi, Philippe.
Oui, mais on démarre de tellement bas. Et puis, dans cette troisième partie d'émission, 30 minutes de sport par jour en primaire, c'est la nouvelle mesure. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça va servir ? Est-ce que ce n'est pas de l'affichage ? Est-ce que c'est nécessaire ? Inapplicable.
Oui.
Voilà.
Moi, je veux dire, à l'époque, on m'aurait fait faire 30 minutes de gym, j'en aurais eu horreur. On m'aurait fait faire 30 minutes de foot, j'aurais été super content.
Ouais, ouais, bah vous auriez dû faire de la gym. Allez.
Vous voulez dire que je suis souple comme un verre de lampe, c'est ça?
Oh, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit pire. Allez.
C'est une émission qui promet, comme vous pouvez l'entendre.
On vous souhaite merci. En tout cas, on vous retrouve demain à la même heure. Et nous, on vous retrouve. Non,
oui, ça. Là,
mais elle est polie. Elle
j'ai
est polie,
dit ça à nos hôtes. Voilà. Et on vous accueille dans quelques instants. On est ravis de vous retrouver.
Ça commence très bien.
Allez, salut.
16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean.
Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.